Face à la douloureuse question de la fin de vie, on entend beaucoup de points de vue, celui d'hommes politiques, d'hommes d'église ou encore de citoyens, notamment dans le cadre de la Convention citoyenne sur la fin de vie, dont les travaux se déroulent en ce moment. Mais que dit la Bible de la fin de vie? Quels épisodes sont rattachés à cette question? La fin de vie sous l'angle biblique, c'est l'objet de cette deuxième émission consacrée justement à ce thème avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste.
Psy et spi avec le père Jean-François Noël, dialogue RCF.
Et bonjour père Jean-François Noël.
Bonjour Sophie.
Sur cette question de la fin de vie, comment elle est traitée dans la Bible? Quels sont les épisodes bibliques plus particulièrement rattachés à cette question, s'il y en a vraiment spécifiques?
Bon, alors je ne me suis pas trop penché sur l'Ancien Testament, j'ai plutôt réfléchi d'abord au Nouveau Testament et tout spécialement aux évangiles. Il m'est venu immédiatement l'affaire du bon larron dont on va reparler, puisque là, de fait, on a vraiment une fin de vie, puisque je pense qu'il, dans les minutes ou le quart d'heure qui suit, il va mourir lui-même, ainsi que son voisin qui est Jésus et l'autre malfaiteur. Et puis, il m'est venu ensuite, mais ça, peut-être qu'on n'y fera qu'allusion, la mort de la fille de Jaïr, donc la jeune fillette qui meurt et que Jésus vient ressusciter. Il y a aussi une fin de vie à ce moment-là. Mais plus encore, lorsque Jésus est présenté donc au début de sa vie, quand il est encore enfant, et que selon le rituel, il est présenté au temple, il rencontre donc deux vieillards, enfin Siméon et Anne. Siméon dit, après avoir vu l'enfant Jésus, « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, qui est la lumière des nations. » Voilà, c'est le Nunc Dimittis que tout le monde, enfin que certains connaissent, qui est le troisième cantique du Nouveau Testament. Il y a le Magnificat de la Vierge Marie, le cantique de Zacharie et le cantique de Siméon, maintenant au maître souverain, que les moines chantent tous les soirs accomplis. Voilà. Maintenant au maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. C'est pas une fin de vie, je sais pas s'il est mort dans la nuit, Siméon, ça m'étonnerait, mais de fait c'est quand même aussi un traitement de fin de vie. En tout cas, à part évidemment le Christ lui-même, parce qu'on a au fond l'évangile est centré sur la fin de la vie du Christ, puisque les épisodes vont commencer à peu près 3 ans avant sa mort et que le centre des thèmes de l'évangile sont sur sa vie.
Alors qu'est-ce que nous disent ces textes sur la fin de vie?
Alors,
notamment donc, le bon larron.
Donc, alors le bon larron, je crois qu'il faut qu'on relise le texte parce qu'en fait, il n'est pas très long et il va nous permettre un peu de... C'est quand même incroyable parce que là, pour le coup, on a vraiment un témoignage immédiat. Alors comment il a été-il reçu par ceux qui étaient au pied de la croix? Moi, je vois que 2 personnes qui l'ont entendu, puisqu'on est sûr de la présence de Jean et de Marie, donc la mère de Jésus et le disciple Jean. Et je pense que Jean l'a raconté à Luc, puisque en fait, c'est un épisode de l'évangile de Luc. Voilà. Bon. Même si c'est plus compliqué que ça au niveau de la transmission. Enfin, je vais relire. Donc, c'est Luc 23, chapitre 23 et 39, verset 39 et suivant. Ça, il faut lire un peu le contexte, donc 39 à 32 à 43. Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'il fut arrivé au lieu dit le crâne, où là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer, les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu, lui. » Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait aussi une inscription « Celui-ci est le roi des Juifs, au-dessus de sa croix. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Et l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et vient ce passage absolument incroyable. Et il disait, donc le bon larron, le bon malfaiteur, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus déclare, deuxième phrase, donc avant son agonie, pendant son agonie, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. » Fin de la lecture biblique.
Quel rapport à Dieu se dessine justement dans cet évangile ? Je n'osais pas vous couper parce que j'avais l'impression que vous alliez dire quelque chose. Donc je vous relance, allons-y.
Et quel rapport à Dieu ? J'ai pas compris la question.
Quel rapport à Dieu se dessine dans cet évangile pour le bon larron ? Justement, sur cette question, la fin de vie, est-ce qu'il n'y a pas une conversion ? Non ?
Oui. Oui, oui, ah bah ça, j'ai pas pensé aller si vite.
Je suis allée un peu trop vite.
Non, pas du tout. Moi, j'aime bien quand je lis un texte, me laisser interroger. Chez les catholiques, moi, j'ai appris ça auprès des juifs. Chez les catholiques, on a tout de suite tendance à donner vite une interprétation avec un concept, conversion. Il est où le mot conversion ? Excusez-moi, Sophie. Hein.
Non, j'entends.
Il est où le mot conversion ? Lisons le texte.
Vous me laissez pas parler, j'allais vous répondre. Non, mais disons que il était sur la croix, il a été crucifié parce que c'était un bandit, donc finalement il se tourne vers Dieu. C'est ça qui me fait penser à.
D'accord.
Ça.
Voilà. Mais vous avez pas tort évidemment. C'est ce que je me tue à faire dans mes sessions. Commençons par écouter le texte avant de lui donner des interprétations certainement raisonnables. Mais il n'est pas marqué qu'il s'est converti. Il est marqué qu'il rentre en dialogue d'abord. Et le contexte est très clair. Jésus est regardé de l'extérieur par ceux qui ne voient qu'un agonisant, une horrible figure souffrante, et qui disent ça ne peut pas être Dieu. Si tu étais le Messie, tu te sauverais, tu nous sauverais. Et en plus, c'est marqué, tu es le roi des Juifs. Donc, en fait, il y a vraiment autour de la royauté une accusation de plus en plus virulente. Vous voyez bien, d'abord, le peuple l'a observé et les chefs tournaient Jésus en dérision. Première accusation. Deuxième, les soldats se moquaient de lui. Donc, la violence monte de cran en cran. S'approchant, lui présente de la boisson vinaigrée. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et puis ensuite, le dernier attaquant, qui est quand même incroyable parce qu'il va mourir aussi, c'est l'un des malfaiteurs qui lui l'injuriait, n'es-tu pas le Christ ? Et au fond, s'ajoute à l'agonie du Christ la violence de la moquerie de l'identité profonde. En fait, tu n'es pas celui que tu as dit que tu étais. Tu es un imposteur. Tu es un imposteur, c'est ça. Si tu étais vraiment roi, parce qu'ils disent pas Dieu, hein, si tu étais vraiment roi, alors tu te sauverais, tu nous sauverais avec. Et le bon larron, face à cette invective populaire, ça doit se passer actuellement dans certains pays quand on accuse et qu'on lapide pour des raisons futiles, des gens qui sont pas d'accord, cette violence populaire dont on sait qu'elle est un exutoire d'une déception, d'une amertume, la violence populaire est une des violences les plus gratuites, parce qu'en fait, personne ne se sent vraiment violent. Hein. Ceux qui ont acclamé Hitler ne se sentaient pas complètement responsables. On sait bien, après les études des différents sociologues, combien la violence populaire, la violence d'une foule, est une violence anonyme et d'autant plus gratuite, et qu'on se croit à l'abri en développant. Bon. Et il y en a un qui n'est pas d'accord avec cette violence qui monte, et qui se tourne et qui rentre en conversation. Qui fait des reproches à l'autre malfaiteur. Tu es pourtant un condamné toi aussi. En fait, là, il avoue, il se retourne sur lui-même et il avoue sa propre culpabilité. Il y a des raisons pour lesquelles je suis condamné. En fait, qu'est-ce qu'il découvre ? L'innocence. Jusqu'à maintenant, au fond, tout le monde se rejette la culpabilité. La culpabilité d'être voyeur. Culpabilité de chercher un tout-puissant pour sauver sa vie et de ne pas en trouver. Culpabilité de croire en Dieu et qu'au fond Dieu n'est pas intervenant ou je ne sais pas quoi. Enfin, multiples culpabilités qui poussent les gens à être très violents, et lui reconnaît sa violence pour lui-même. Et là, ça lui permet, cet aveu, ça lui permet de s'autoriser à interroger, à demander, à faire une demande. Se reconnaître comme coupable, reconnaît que l'autre n'est pas coupable et lui permet de s'élancer comme... C'est fou quand même. Il lui reste quelques instants. Il sait qu'il va mourir. Il est en train de souffrir. Et il demande ni de ne pas mourir, ni de ne pas souffrir.
Et alors qu'est-ce que ça nous dit justement par rapport à la fin de vie, concrètement ?
Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
Le débat d'aujourd'hui, c'est de mourir sans souffrir ou de... Je sais pas quoi. Enfin, c'est pas du tout... Et surtout, il y a le vrai débat là, dans l'évangile, c'est c'est ce qui se passe après. C'est pas ce qui se passe maintenant. C'est l'après. C'est le passage.
De ne pas se dire que la mort est une fin.
Voilà.
Comme on peut le voir.
Ah oui, parce que si évidemment le débat religieux ne peut pas s'autoriser à penser qu'il y a une vie après la mort, alors on est coincé par la mort, et donc étant coincé par la mort, on essaye d'en adoucir les contours qui seront toujours des contours d'horreur.
J'ai l'impression que vous l'aimez bien cet évangile.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que je le comprends pas bien. Je comprends pas. Je l'ai pas dit. Je ne comprends pas la phrase. Enfin, je comprends. J'ai une idée. Je comprends pas bien la phrase d'avant au verset 34. Père, pardonne-leur. Je ne comprends pas cette phrase. Je comprends. Mais
Père, pardonne-leur,
pourquoi...
ils ne savent pas ce qu'ils font.
Parce que c'est au moment où la violence monte que Jésus ne leur parle pas. Il va parler directement au Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, il dit qu'ils sont sous l'influence d'un autre maître qui est le maître de la mort, le maître de la violence, le maître de l'aveuglement, le maître de l'endurcissement, le maître de celui qui dirige actuellement nos guerres... qui fait croire à Poutine que voilà, il faut qu'il combatte l'Ukraine, je sais pas, enfin voilà, c'est. Et d'ailleurs, c'est reconnaissez hein, c'est pas lui qui donne le pardon. D'ailleurs, Jésus ne pardonne pas. Ne pêche plus, il va inviter à ne plus pécher, mais le pardon vient du Père. Père, pardonne-le. Donc lui, il vit à l'intérieur du débat dans lequel les hommes sont enfermés et il voit qu'ils sont pas libres et il voit qu'ils sont sous la domination d'un maître. Qui ne fait croire, et c'est pas simplement la vie après la mort, qui ne fait croire que la mort est l'ultime... Enfin, moi, j'ai une confidence à faire, puisque quand j'étais encore curé de Istres, j'ai le temps là, curé de Istres, j'ai accompagné, je peux en parler, parce qu'il s'appelle Paul, il avait un cancer, une tumeur au cerveau, il était bien plus jeune que moi. Il me l'avait annoncé, il était en soins, et puis il a été hospitalisé, et puis j'ai été le voir... c'était très à la fois drôle et tragique puisqu'il avait un vrai fer jumeau. Donc il y avait lui en version vivante et l'autre en version et j'aimais beaucoup Paul. C'était un ancien pompier qui avait pompier d'intervention sur qui travaillait avec la gendarmerie pour les accidents de voiture. Il m'avait raconté des trucs terribles qu'il avait vécu. Il est mort à 55 ans, un truc comme ça. Quand je suis arrivé, j'ai pleuré et il m'a dit mais non Jean-François, non, je sais où je vais. Mais non, non, mais ça va, moi, je suis désolé pour toi. Il est mort. Dans la nuit qui a suivi. Il m'a consolé. Et donc, vous voyez, c'est le mystère de notre rapport à notre propre mort est impossible à prévoir.
L'émission se termine sur cette note d'émotion. Merci beaucoup, Père Jean-François Noël. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix et Arles et également psychanalyste. La fin de vie sous l'angle psychologique, ce sera l'objet de notre prochaine émission. Rendez-vous mercredi à 11h. Belle semaine à tous à l'écoute des programmes de RCF.
Psy Espy, avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.